possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Les inégalités sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et donc, quand ça devient parasitaire, eh bien, il faut faire comme pendant la Révolution. Couper quelques têtes.
Cédric.
Chasser le naturiste, il revient au bungalow. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off, émission qui démarre donc de manière peu diplomatique, alors que c'est justement une spéciale monde diplomatique. Sélection d'articles de notre mensuel préféré avec les copains profs d'histoire géo. Alors au menu, on comprendra peut-être les pulsions révolutionnaires de Cédric et sa question du jour, est-ce qu'on polluerait moins si on travaillait moins ? Autre sujet, on a dans cette émission déjà beaucoup évoqué la dette de la France, pour déjà en dire que cette dette relève d'un choix politique. Et la dette divise la gauche française, on en reparle tout à l'heure avec Daniel. Et puis dans quelques instants, vous allez retrouver André et un système judiciaire au bord de l'implosion. Spécial diplo pendant une heure dans ta radio, on va faire que causer et pas du tout passer de zizik. C'est parti. Salut André.
Salut à tous.
Dans la pile de monde diplomatique qu'on n'a pas traité, l'édition de mai 2021 a sa une justice au bord de l'implosion, inflation de réforme, carence de moyens, une enquête du journaliste Jean-Michel Dumay. Tandis que le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, en conflit avec les personnels de justice, inscrit ses réflexions d'ancien avocat pénaliste dans un projet de loi hétéroclite, la France consacre toujours aussi peu d'argent à sa justice. Magistrats, greffiers et agents administratifs subissent une pénurie ancienne qui les use et un empilement de réformes, sans vision globale, qu'ils n'absorbent plus. Et un article d'autant plus intéressant, André, qui s'inscrit aussi dans le cadre d'un conflit qui n'est pas neuf, mais qui est réactualisé avec les perspectives de la prochaine présidentielle, entre la police et la justice, hein, la police accusant l'autre d'être beaucoup trop laxiste et à relâcher les gens que la police arrête.
Cette polémique, je dirais l'arbre qui cache la forêt, en fin de compte. Hein. Ah bon, ça vient aggraver la situation d'une administration judiciaire qui est au bord de l'implosion. L'image n'est pas excessive. On assiste quelque part à une ruine, à une dégradation profonde de l'institution judiciaire sous le coup de la misère. On pourrait faire un article à peu près équivalent pour l'éducation nationale, la santé publique, etc. On a là trois administrations dépendant directement des pouvoirs publics, un ministère soumis à l'autorité de l'exécutif et théoriquement à l'Assemblée des députés qui votent les lois, les budgets et contrôlent ou devraient contrôler l'action du gouvernement. On a là trois administrations qui, en 30 ans, ont subi des réformes successives et surtout une diminution continue des budgets dont elles disposaient à l'origine. Et un changement radical aussi des modes de gestion. Ça y est, on est passé au managing entrepreneurial aussi dans la justice. En gros, les gouvernements qui se sont succédés depuis les années 80 ont estimé que ces administrations coûtaient trop cher à l'État et donc aux contribuables. Nous étions déjà entrés dans l'ère du libéralisme triomphant. Le but était très clairement de diminuer le rôle de l'État, les dépenses de l'État, le nombre des fonctionnaires, en finir avec ce qu'on appelait l'État-providence, etc., etc. Il fallait réduire les dimensions de l'État, en quelque sorte. Alors tout ceci était en parfait accord avec Bruxelles, dont c'était l'occupation principale. Cette évolution a été également puissamment aidée par la soumission de la pseudo-gauche au dogme libéral. Il a bien fallu que tous ces hommes politiques, toutes ces femmes politiques qui se sont succédées acceptent l'idée qu'il fallait diminuer les dépenses de l'État. Et ils ont tout fait pour le faire. Hein ? Souvenez-vous des propos de Allègre, ministre socialiste des universités sous Jospin, qui parlait à propos de l'éducation nationale de dégraisser le mammouth. Ben, on a dégraissé aussi la justice. Tout le monde s'y est mis, hein, y compris la Cour des comptes. Zélé à traquer toutes les dépenses de l'État, il fallait empêcher l'État de se laisser aller aux dépenses, etc. Et puis, il fallait accréditer l'idée que l'État dépense trop, décidément. Et si vous dépensez trop, il faut ensuite après augmenter les impôts. Or, en bons libéraux, il faut diminuer les impôts. Pas pour tous, évidemment. En 2006, la majorité du Parlement, dont les élus soi-disant socialistes, ont voté une loi dont l'opinion, peu éclairée par la presse, ça ne vous étonne pas, ne s'est pas émue. Et pourtant, cette loi, que l'on appelle la LOLF, loi organique relative aux lois de finances, va avoir une influence énorme et négative sur la plupart d'entre nous. C'est cette loi qui va permettre l'application d'une politique d'austérité drastique. Elle va modifier en profondeur les modalités de l'allocation des crédits aux différentes administrations dépendant des différents ministères. Elle va permettre aux différents ministères de limiter, voire de diminuer les crédits accordés aux organismes publics qui en dépendent. En gros, on donne une enveloppe à un grand hôpital ou à une académie scolaire ou à une juridiction et ensuite c'est à vous de répartir la pénurie. Vous ne dépassez pas l'enveloppe. On ne définit pas des besoins d'une administration, d'un organisme, d'un hôpital, d'un lycée. On a une enveloppe. C'est ça la LOLF qui a été votée comme ça dans, je dirais pas l'indifférence, mais en tout cas l'ignorance de l'opinion publique. Et pourtant, c'est ça qui va diminuer le nombre des infirmières, le nombre des professeurs, le nombre des juges, etc. C'est cette LOLF qui va permettre de supprimer des classes, de supprimer des sièges de juridiction. Pour ces administrations, ça va devenir une gestion qu'on appelle budgétisée. C'est-à-dire, ça y est, ils ont leur fric, maintenant, ils gèrent leur budget. Alors, on supprime des lits, ou on supprime des hôpitaux, des petites unités, des maternités. On a supprimé une quantité de petites maternités. Maintenant, dans certains coins, il faut faire 80 bornes pour accoucher. Il faut gérer, faire des économies, serrer au plus près. Alors, on va adopter pour ça des méthodes de gestion à l'américaine, des méthodes de gestion d'entreprises privées. Comme si une administration publique ou un hôpital était une boîte privée. Ça s'est passé à cette époque-là, de 2006, donc vous voyez à peu près une vingtaine d'années, quoi. Et tous les gouvernements vont s'aligner là-dessus. Ah, bah oui, il faut faire comme ça, il faut faire des économies. Donc nous avons tous vécu ce désastre dans les hôpitaux publics où on a vu le résultat pendant la crise actuelle du Covid. On avait supprimé des dizaines de milliers de lits. 15 000 lits. Et ensuite, après, il faut accueillir les gens quand même. Alors, on supprime des services, on regroupe, on rationalise en un mot. Alors, la justice, revenons à la justice, c'est notre article. On ne soupçonnait pas qu'elle pût être privatisée par les libéraux fous de Bruxelles ou du gouvernement. Pourtant, la justice n'a pas échappé à la terrible cure d'amaigrissement. C'est-à-dire que ses moyens se sont vus diminuer ou n'ont pas augmenté pendant des années. Alors, l'article fournit des chiffres qui sont ahurissants. Selon la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, CEPEJ, qui est une émanation du Conseil de l'Europe, en 2018, la France dépensait pour sa justice judiciaire, c'est-à-dire la justice proprement dite, pas les prisons, 69,5 euros par habitant. En Espagne, c'était 92 euros. Aux Pays-Bas, 120. En Autriche, 125. En Allemagne, 131. Ça vous donne une idée de la misère annoncée de l'administration judiciaire française. Mais rapportons maintenant ces chiffres à la richesse du pays, c'est-à-dire au PIB, produit intérieur brut. En France, c'est 0,2% du produit intérieur brut, contre 0,32% en Allemagne, 0,35% en Espagne. Alors certes, on a eu une loi de programmation de la justice, LPJ, je crois que c'était en 2018, pour augmenter les crédits jusqu'en 2022. Mais une bonne partie de ces crédits, en fait, vont à l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire, il faut mettre les gens en prison. Ah, quand on n'en met pas assez en prison, tout le monde sait ça. L'opinion publique, qui est toujours, vous savez, très au courant des choses, veut mettre tout le monde en prison. Alors, seulement 11% d'augmentation pour la justice. C'est très nettement insuffisant pour rattraper un retard pluriannuel, décennal même. Comment rattraper ce retard énorme qui a été pris? C'est la même chose à l'éducation nationale et c'est également la même chose pour les hôpitaux. On ne forme pas des professeurs, des médecins, des spécialistes, des chirurgiens et des juges en trois coups de cuillère à peau comme ça. Il faut former des juristes, il faut former des gens qui sont des magistrats. Ça ne se fait pas comme ça. Pour 100 000 habitants, il y a 11 juges professionnels en France, 24 en Allemagne. En France, toujours, il y a 34 greffiers et adjoints administratifs pour 43 en Belgique, 65 en Allemagne. C'est vous dire l'état de misère, d'arriération dans lequel on oblige à travailler les juges. L'empilement des dossiers. Il reste toujours un gros paquet d'affaires qui sont en pendant et qui ne sont pas traitées. Vous imaginez la misère, la douleur de ces dossiers non traités. Il ne s'agit pas de simples dossiers comptables ou administratifs. Il s'agit de la vie des gens, de leur divorce, de leur pension, etc., etc. La justice est sous pression. Alors on lui demande de faire du chiffre. Un peu comme les flics, hein, faut faire du chiffre, hein, parce que sinon, vous ne faites pas de votre travail. On a inventé, vous le savez, les audiences de comparution immédiate. On fait de la justice en abattage. Les procès se succèdent. Parodie de justice, sans véritable examen des cas, etc. Pour beaucoup, ça apparaît comme une justice de blancs qui juge les noirs, ou une justice de riches qui juge les pauvres. C'est une justice de classe. On a une société de classe, une société bourgeoise, alors on a une justice de classe. Hein. Alors, l'origine sociale des magistrats, de la majorité des magistrats, n'aide pas grand-chose. Certes, il y a une gauche chez les magistrats, il y a un syndicat de la magistrature très combatif, etc., et d'autres syndicats qui essayent de combattre ça, mais on fait pas de grève quand on est juge. On fait pas de grève, c'est comme quand on est chirurgien, quoi, en quelque sorte. Il y a tellement de choses en pendant que... Donc, l'État se fout pas mal, en fin de compte, de la vie des juges, etc. Parce que des jugements, il y en a plein l'article, des jugements par des magistrats qui jugent très sévèrement cette misère des tribunaux, cette misère de l'administration de la justice, et qui demandent des réformes et des sous, etc. Mais bon, on nomme Dupond-Moretti. Cette espèce de guignol qui saupoudre son administration de personnel précaire. Vous vous rendez compte, dans l'administration de la justice, il y a plein de précaires, de vacataires, qui sont là pour 2 mois, 3 mois, parfois sans formation. Mais on est à l'ère du management. Hein, on va bientôt faire un peu comme à l'Éducation nationale, c'est-à-dire des vidéoconférences de tribunaux et tous les autres gadgets de l'informatique, etc. En 2019... 242 juridictions spécialisées ont disparu. Il s'agit essentiellement d'affaires de sécurité sociale et de contentieux d'incapacité, des pensions pour incapacité, etc. Et les dossiers s'empilent, évidemment. Or, ce sont des vies qui sont là-dedans. Quelques citations de l'article. Première citation, c'est M. Janas à Lyon, c'est un magistrat. Il dit « Avec les comparutions immédiates au pénal et les affaires familiales au civil, on fait du chiffre. C'est une vitrine. » Nous faisons comme si tout allait bien pour la carrière du chef de la juridiction. Le flux et le budgétaire sont aujourd'hui au cœur de l'activité. Il faut faire du flux, c'est-à-dire des jugements de plus en plus, et puis essayer de serrer au maximum le budget. Une autre citation de Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat Force Ouvrière. Le mouvement n'a pas de frontières. L'indicateur statistique devient un prescripteur. Il entraîne une dénaturation de l'office du juge. C'est-à-dire que pour faire du chiffre, on dénature les jugements. C'est un peu inquiétant pour les judiciables. Hein. Il y a 25 ans, on ne travaillait pas comme cela, assure Mme Cernic à Soissons. Aujourd'hui, nous sommes tenus par les chiffres. Avant, nous parlions d'agents et maintenant d'équivalents temps plein. Un agent, c'est un agent du service public qui est embauché et permanent, en quelque sorte. Maintenant, c'est un équivalent temps plein, c'est-à-dire quelqu'un qui est... fait l'équivalent d'un temps plein de... Mais il n'est pas forcément titulaire. Bon, et ça peut être 2 personnes ou 3 personnes, etc. Autre citation. L'optimisation de la gestion des flux a permis là, pour reprendre le mot qui a couru, d'évacuer les dossiers. Évacuer les dossiers. 300 000 affaires en France ont été transférées aux tribunaux judiciaires, derrière lesquels, rappelle-t-elle, se cachent des cohortes de personnes exclues du système handicapés, aux carrières fragmentées, aux emplois précaires, pour qui la perte d'une rente d'accident du travail ou d'une pension d'invalidité peut être fatale. Pour un juge, dit-elle, voir le justiciable presque comme un adversaire, parce qu'il ralentit la gestion des flux, mène aussi à une perte de sens des plus criantes. C'était bien un système absurde et un système surtout ingérable. Alors en fait, les politiques ne pensent qu'aux finances publiques, hein, ils font abstraction de la spécificité. Remarquez, c'est la même chose dans les hôpitaux et c'est la même chose à l'Éducation nationale. Le travail judiciaire n'est pas un travail d'entreprise. C'est pas un travail de production de lunettes de chiottes ou de fauteuils. C'est un travail qui concerne l'humain. Il réclame et du temps, et de la réflexion, et de la compétence professionnelle. Eh bien, tout ça disparaît au profit des flux et de l'évacuation des dossiers. Je ne voudrais pas rentrer dans le système judiciaire actuellement. Je craindrais également d'aller dans l'hôpital public déshabillé de ses crédits. Et j'enverrais pas mes gosses à l'Éducation nationale. Voilà le résultat de 30 ans d'austérité, de diminution des dépenses publiques, de diminution du nombre des fonctionnaires, qui était le but demandé par Bruxelles, qui est toujours l'objectif des libéraux. Je vous rappelle qu'il n'est pas question d'augmenter le nombre des fonctionnaires. Je me demande comment on va sortir de cette période épouvantable.
Cette spéciale Monde Diplomatique, c'est avec Daniel qui revient sur la question de la dette française. Cette soi-disant dette, hein, on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission, résumé des épisodes précédents. Tout d'abord, malgré ce qu'on nous rabâche, la France n'est pas devenue un pays du tiers-monde qui ne peut plus financer retraites et services publics. En 2021, l'Hexagone est la cinquième puissance économique mondiale. Alors avant de poursuivre, on laisse tomber le mot « milliard » qui nous enfume toujours. Chaque année, donc, la France produit environ 2500 euros de richesse. Mais on nous répète que le pays est endetté. 2700 euros d'une dette qui se creusait chaque année d'un déficit d'environ 100 euros. Mais chaque année, avec la fraude et l'évasion fiscale, des riches escamotent au moins 100 euros qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. On a donc d'un côté une dette qui se creuse tous les ans d'environ 100 euros ou plus, et de l'autre côté, au moins 100 euros ou plus fraudés tous les ans par les riches. Mais comment résoudre le problème de la dette ? Et si tout ça ne relevait finalement que d'un choix politique ? Salut Daniel.
Salut à tous.
À la une du Diplo de juin, quand la dette fissure la gauche française. Insécurité, immigration, identité, islamo-gauchisme. Les thèmes de l'élection présidentielle de 2022 en France risquent d'être aussi monotones que déprimants. Des idées foisonnent pourtant, notamment à gauche, et elles suscitent des propositions radicales largement occultées par les médias. Dont celle d'annuler les dettes détenues par la Banque Centrale Européenne afin d'élargir les marges de manœuvre de la puissance publique.
Annuler la dette. Cette idée a été lancée au mois de février 2021 par un groupe de 150 économistes européens qui apparaissent de ce fait comme des économistes hétérodoxes. Le discours officiel, c'est « les États sont fortement endettés, cela n'est pas supportable, diminuer la dette, et il faut réduire les dépenses publiques ». C'est en ce sens-là que l'on peut dire que la dette est politique. Petit rappel d'histoire récente. Les dettes publiques dans le monde, et en France en particulier, se sont accrues de manière considérable à travers deux épisodes. Premier épisode, 2008-2012, la fameuse crise née aux États-Unis, la crise des subprimes. Et le deuxième épisode, c'est la crise sanitaire 2019 à aujourd'hui, qui a nécessité le recours à des fonds publics pour maintenir, indemniser tout un tas d'activités économiques. Donc deux épisodes. Le résultat, effectivement, c'est un gonflement considérable de la dette, des dettes publiques. Mais en même temps, les taux d'intérêt auxquels empruntent les États sont très bas, presque nuls, parfois négatifs. La France, hein, l'année qui vient de s'écouler, a emprunté de l'argent à des taux négatifs, c'est-à-dire les instituts financiers supplient pour qu'on leur emprunte de l'argent. Ça peut paraître étonnant, une personne privée ou un ménage, plus il s'endette, plus on hésite à lui prêter de l'argent. On lui prête en prenant des garanties toujours plus fortes, en augmentant les taux d'intérêt qu'il doit rembourser. On va parler de la France. Le capital de sa dette est beaucoup plus considérable qu'il y a 10 ou 20 ans. Le service de la dette, le coût des intérêts est plus faible qu'il y a 10 ou 20 ans, alors que le pays est beaucoup plus endetté. Et c'est là où la dette existe ou n'existe pas, c'est l'idée qu'on s'en fait, puisque une dette plus lourde pèse moins lourd dans le budget de l'État. Parce que le service de la dette, les taux d'intérêt n'ont cessé de baisser, voire même de devenir négatifs. Alors on se dit, mais les milieux financiers sont fous, pourquoi prêtent-ils à perte pour gagner très peu? Alors il faut bien comprendre que les milieux financiers ne prêtent pas en espérant le remboursement du capital. Ils prêtent pour obtenir une rémunération de leur capital. En obtenant cette rémunération et par la pression sur la puissance publique, ils obtiennent une prise d'influence sur les États. Alors pourquoi la France, par exemple, alors qu'on dit toujours qu'elle est très endettée, peut emprunter à des taux négatifs? Parce que l'État français a une très bonne réputation de savoir bien lever l'impôt, donc de garantir la rémunération du capital. Alors, face à la nouvelle situation créée par la crise sanitaire, Macron a dit « l'État va dépenser pour subvenir aux besoins des citoyens, des entreprises, etc., quoi qu'il en coûte ». Mais ce n'est pas la première fois qu'une chose comme ça se produit. En 2012, lors de la crise financière, l'euro a failli éclater. Le président de la BCE, la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, ancien cadre supérieur de Goldman Sachs, qui était d'ailleurs à l'origine du crash financier aux États-Unis, était président de la BCE. Il a dit quelque chose d'assez semblable. Juillet 2012, dans le cadre de notre mandat, la BCE est prête à faire tout ce qu'il faudra pour sauver l'euro. C'est exactement le quoi qu'il en coûte de Macron. Mario Draghi à la BCE, Macron à l'Élysée, sont en rupture totale avec l'orthodoxie ordolibérale qui domine l'Union européenne. Et la gauche devrait s'en féliciter. Or, la dette fissure la gauche française, divise la gauche française. Depuis le mois de février de cette année, l'appel des 150 économistes hétérodoxes séduit ce qu'on appelle, nous, la gauche de la gauche. Hamon a dit « Ouh là là, j'y avais pas pensé, mais c'est une bonne idée. » Et Mélenchon dit « Ah, ça devait être dans mon programme. » Une autre partie de la gauche trouve cette annulation de la dette inutile. C'est inutile de l'annuler parce qu'elle ne sera jamais remboursée. Aucun État n'a remboursé ses dettes hein, à travers l'histoire. Depuis que les États, que ce soit les cités-États de l'Antiquité aux États-Unis du 19e ou de l'Allemagne du 20e siècle, jamais aucun État n'a remboursé sa dette. On trouve des astuces pour que cette dette soit ou annulée partiellement, ou totalement, ou négociée, ou restructurée, ou transformée par des jeux d'écriture, très belle expression, une dette perpétuelle. C'est-à-dire, on la met dans le placard, c'est terminé, on n'en parle plus, mais elle est là. Elle sert à quelque chose. Hein. Donc, Bruno Tinel, qui est un des représentants de ce courant de la gauche modérée, keynésien orthodoxe, modéré, dit « Eh ben, il ne faut pas parler d'annulation de la dette. De toute façon, on sait bien, mais on le dit à demi-mot qu'on ne la remboursera pas, parce que si on dit qu'on va l'annuler, on va provoquer une crise du système financier. » Les prêteurs voudront plus nous prêter et donc il faut surtout pas toucher à l'intégrité corporelle et mentale de la dette pour éviter une crise du système. Alors, les 150 économistes qui appellent à l'annulation de la dette disent, mais cela est bel et bien de ne pas annuler la dette, mais rien ne nous garantit que les conditions d'intérêt d'aujourd'hui, très faibles, voire négatives, rien ne nous dit que ces taux très très bas vont durer indéfiniment. Et dans le cas où ils remonteraient, on pourrait observer tout autant une panique boursière sur le marché des dettes publiques et une mise en faillite des États et la mise en danger de la zone euro, donc de tout le système européen dont dépend la France. Alors, les défenseurs de l'orthodoxie disent « Mais il faut garder le spectre, la menace de la dette, car comment on peut justifier aux yeux des opinions publiques que il faut faire des économies à tout va? Quel est l'intérêt du spectre de la dette? C'est de faire accepter les politiques austéritaires. Le spectre de la dette est un moyen de pression à la fois sur les États et sur les opinions publiques pour pratiquer une politique austéritaire. Et la visée ultime, c'est pas l'équilibre budgétaire. La finalité, c'est la réduction du périmètre de l'État, l'importance des services publics et des politiques sociales. Résumons-nous sur les fractures de la gauche française. Vous avez des sociaux-libéraux qui se contentent d'une sorte de dette perpétuelle qui ménage les marchés financiers et qui place les politiques des États dans la dépendance de ces marchés. Et vous avez la gauche de la gauche, partisane d'une restructuration de la dette, c'est-à-dire d'une annulation partielle de la dette et d'une émancipation tout aussi partielle des marchés. Conclusion personnelle. Il ne s'agit donc pas d'opposer une gauche modérée à une gauche radicale. Dans les deux cas, les sociaux-libéraux comme la gauche de la gauche, ils sont les uns comme les autres européo-compatibles avec l'Union européenne. Dernière chose qui vient d'arriver, c'est l'exemple états-unien, leur maître à tous. Depuis l'élection de Biden, il y a un changement de politique monétaire, financière, économique du pays qui pourrait faire pencher la balance en faveur de l'hypothèse des 150 économistes hétérodoxes, puisque la présidente Biden fait un plan de relance massif avec investissement public, aide sociale, creusement des déficits et laisser filer la monnaie. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est tout simplement une relance keynésienne, classique, celle qui a été utilisée dans les années 30 par Roosevelt. Mais c'est une relance keynésienne d'envergure, beaucoup plus puissante que le mini-plan de relance de l'Union européenne. Alors, on peut se dire, l'Union européenne, les États européens, la France, pourraient être encouragés à rompre avec la tradition ordo-libérale et à aller vers une politique keynésienne, en suivant tout simplement l'exemple des États-Unis, ce qu'ils ont toujours fait. À mon avis, c'est peu probable. Parce qu'il y a une grande différence entre la situation des États européens et des États-Unis. Les États-Unis maîtrisent directement leur monnaie, ce qui n'est pas le cas des États européens. Les États-Unis n'ont pas d'État-providence à contenir, à réduire, voire à détruire. Ils n'en ont pas, donc ils n'ont rien à détruire. Et par ailleurs, à la différence de l'Union européenne, ils ont une politique de puissance. Et toute cette politique de relance, c'est une relance de la croissance et une politique de compétition avec la Chine. L'Union européenne n'est pas du tout dans cette position. On en arrive naturellement à la conclusion de Renaud Lambert dans son article. De toute façon, l'histoire montre que l'alignement des planètes politiques requis pour qu'une annulation de ce type soit acceptée est inimaginable au sein de la zone euro. Finalement, la proposition ambitionnerait surtout de doter la gauche de perspectives présidentielles plus exaltantes qu'un retour plus ou moins rapide aux politiques d'austérité.
Philippe, je crois savoir qu'il y a eu le cas d'une dette intégralement exigée et remboursée. Oui, ce sont les 100 millions de francs or qui ont été réclamés à la République d'Haïti en 1825 et qu'elle a remboursé jusque dans les années 1950, avec pour effet notamment de l'obliger à couper tous ses bois exotiques pour fournir de l'argent, ce qui fait qu'aujourd'hui la partie de l'île de Saint-Domingue qui est Haïti est complètement dévastée, et quand il y a des pluies, ça produit des effets ravageurs. Il y a des gens qui ont estimé que si la France devait rembourser à Haïti, ça se compterait par dizaines de milliards d'euros. À propos de l'annulation de la dette, il y a une annulation de la dette, mais qui est tout à fait courante, c'est en laissant filer la monnaie. Le système de l'inflation permet d'éteindre la dette en payant en monnaie nominale ce qui avait été souscrit en monnaie réelle.
Les économistes appellent ça la monétisation de la dette. Tu fais une inflation modérée, 5% par an, en 10 ans, tu as annulé 50% la moitié de ta dette. Le problème, c'est que l'inflation annule la dette, mais généralement, elle peut ravager les revenus, en particulier des salariés les plus modestes. Mais effectivement, la monétisation de la dette est une manière de l'annuler sans le dire.
Si jamais mon ami Daniel ou mon ami André a une dette de 80 000 ou 100 000 euros pour rembourser, ça leur bouffera tout le temps qui reste à vivre. En revanche, si toi, Daniel, tu t'endettes de 100 milliards d'euros, c'est pas toi qui te fera du souci, c'est ton créancier.
Quand t'empruntes 100 euros, tu flippes. Quand t'empruntes 10 000, là, c'est toi et la banque qui flippent. Mais quand t'empruntes 1 milliard, c'est la banque qui flippe.
L'État le plus endetté du monde, c'est les États-Unis. Mais la charge même de leur dette est une protection pour eux. Parce que si jamais ils devaient rembourser cette dette, ça veut dire qu'ils n'achèteraient plus un centime aux États qui leur vendent, c'est-à-dire l'Union européenne ou l'Asie. Et ils se trouveraient complètement dans la panade. Donc, au-delà d'une certaine somme, c'est le débiteur qui est le plus costaud.
L'histoire moderne nous le démontre. Une dette, quand on ne veut pas la payer, on ne la paye pas. En l'occurrence, l'Allemagne est endettée auprès de l'intégralité de l'Europe. L'Allemagne n'a jamais payé les dettes consécutives aux deux guerres mondiales. Les Allemands sont très très lourdement endettés auprès des Grecs, notamment.
Ça ne les empêche pas d'être les principaux tenants de l'orthodoxie libérale, etc., du remboursement de la dette, du maintien de la valeur de l'euro, etc. Enfin bon, c'est l'Union européenne.
Ça revient à ce que tu disais au départ, la dette n'existe pas.
Sinon, il y a un autre moyen de s'affranchir d'une dette, c'est de se débarrasser du créancier.
Ça s'est beaucoup fait. L'histoire de France est parsemée de souverains qui ont, se sont débarrassés, parfois très méchamment et violemment, de leurs créanciers. Des Templiers à Jacques Coeur.
Les Juifs, les Lombards, etc. On se débarrassait du créancier.
Il n'y a pas eu quelque chose qui s'appelait la banqueroute des deux tiers sous le directoire.
1796, 15 ou 16, l'assignat avait capoté. Qu'est-ce que fait le directoire, c'est-à-dire le gouvernement de la République française, il annule les deux tiers de sa dette. Et voilà. Et alors, parfois, on annule le créancier aussi, mais c'est pas bien, hein, ça.
Non, c'est très mal, c'est très mal. Ouh là là, pas bien.
La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, oh, crions le bien fort. On voit les jeunes et les vieux jusqu'au pépé chanter joyeux, tralalala, et répéter encore. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur. La crise est finie, nous nageons dans le bonheur.
Dernier sujet de cette spéciale Monde diplomatique, tout de suite avec Cédric, pour parler réduction du temps de travail et écologie. Salut Cédric.
Salut.
Je t'ai demandé d'éplucher cet article du Monde diplomatique de juin 2021, parce que je trouve très bien, notamment sur ses rappels historiques concernant les conquêtes sociales et le droit du travail, un article intitulé « Travailler moins pour polluer moins, les vertus de la semaine de 28 heures ». Un article de Claire Lecoeuvre, qui est journaliste. Émancipatrice, gage d'une meilleure répartition de l'emploi et des richesses, la réduction du temps de travail permettrait aussi de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Mais cette vision audacieuse de l'avenir effarouche encore, comme l'atteste le retrait par la Convention citoyenne pour le climat de sa proposition sur les 28 heures de travail hebdomadaire.
Donc, la Convention citoyenne pour le climat a été mise en place par Emmanuel Macron. Cette convention, donc, c'est un groupe de citoyens qui ont été tirés au sort pour apporter une réponse simple à une question compliquée. Comment faire pour la France de réduire de 40% ses gaz à effet de serre, GES, tout en respectant, je cite, la justice sociale et la dynamique économique. 149 propositions ont été remises à Emmanuel Macron, mais une a été retirée puisque 65% de cette convention citoyenne s'y est opposée. Alors, en quoi consistait cette mesure qui a été retirée volontairement par la Commission elle-même ? Elle consistait à réduire le temps de travail, la durée légale du temps de travail, à 28 heures par semaine. Le prétexte qui a été donné par la majorité des gens qui se sont opposés à cette proposition était que c'était plus une mesure d'ordre social et de bien-être au travail plutôt qu'une mesure en lien direct avec l'émission de gaz à effet de serre et donc avec une dimension plus écologique. Pourtant, c'est plus compliqué que ça. Effectivement, de nombreuses études établissent un lien très clair entre temps de travail et consommation d'énergie. Effectivement, le temps libéré introduit de facto une certaine modération salariale, notamment en n'élevant pas de façon trop importante le niveau de rémunération, mais ça libère du temps. Et donc là, on voit que les gens qui disposent de ce genre de dispositif, en fait, vont développer des activités enrichissantes qu'ils vont effectuer eux-mêmes plutôt que de recourir à la production d'un service ou d'un bien par une entreprise extérieure. Plusieurs exemples, jardiner, faire la cuisine, coudre, les travaux dans sa maison, réparer sa voiture, etc., etc. Où les gens, en fait, vont, grâce au temps libéré, et peut-être aussi à cause d'un manque de moyens financiers, eh bien faire les choses par eux-mêmes. Alors, par exemple, sur la cuisine, on voit tous les avantages que l'on peut avoir à cuisiner soi-même plutôt que d'avoir recours à des plats congelés. Vous voyez, genre, je bosse tout le temps, je n'ai pas le temps de faire à manger. Donc, j'achète un truc au supermarché dégueulasse, tu bosses moins, tu vas gagner peut-être ou un petit peu moins, mais bah, tu vas prendre tes légumes et puis tu vas les faire toi-même, puis tu vas t'apercevoir que c'est moins cher et que c'est meilleur pour la santé. On fait son marché, ce genre de choses. Plus globalement, il dit que là, on bute sur des problématiques beaucoup plus larges. Comment faire pour réduire les gaz à effet de serre ? On voit que la solution dominante, qui est adoptée par tous les responsables, faire confiance en la science et la technique, par exemple pour changer d'énergie, augmenter la rentabilité, la productivité des panneaux solaires, des éoliennes, d'abaisser les consommations des moteurs, etc. Donc tout cela est fort juste, hein, il faut avoir une dimension technicienne. Est-ce que cette solution technique et scientifique suffira à sauver la planète ? Eh bien, on s'aperçoit que non, parce que malgré la mise en place de ce genre de technique, on s'aperçoit que la consommation de charbon, de pétrole, pour produire l'électricité, continue d'augmenter dans le monde, et que notre consommation d'énergie ne se restreint pas, bien au contraire. Plus on produit d'énergie, plus on en consomme, et donc plus on produit de déchets. Donc, il y a une nécessité fondamentale de réinventer en profondeur notre société pour sauver la planète et sauver tout simplement l'humanité. Ça passe par une réflexion en profondeur sur le lien entre croissance du bien-être et croissance économique. Effectivement, est-ce que la production de biens et de services doit être l'alpha et l'oméga pour mesurer le progrès humain ? Actuellement, dans tous les outils de mesure, c'est le cas. Le PIB, l'IDH, introduit cette idée qu'il faut produire toujours plus de biens et de services, et que c'est ça qui crée de l'emploi, c'est ça qui crée la richesse, c'est ça qui crée le bien-être humain. Eh bien, un certain nombre de sociologues et économistes remettent ça en cause. Parmi eux, Jean Gadret, qui réfléchit à une société post-croissance dans laquelle les indicateurs ne seraient pas liés au volume de production, mais aux besoins sociaux satisfaits dans le respect du patrimoine naturel et des droits humains. Il faut d'abord que tous les gens mangent à leur faim, de façon équilibrée, qu'ils aient accès à l'eau potable, qu'ils puissent être logés dans des conditions décentes, qu'ils puissent s'habiller correctement, avoir accès à l'éducation, à la santé, etc. Et quand on a couvert tous ces besoins, bah c'est ça la croissance. Que les gens aient toujours plus accès à tous ces services et que ces services soient de meilleure qualité. En utilisant ces outils-là, on changera de problématique en disant « il faut toujours produire plus ». Vous voyez, on voit aujourd'hui le pathétique appel du grand intellectuel Bruno Le Maire disant qu'il faut qu'on dépense l'épargne soi-disant accumulée pendant la période du confinement. Donc il faut acheter tout, n'importe quoi, des téléphones, des voitures, des services, il faut voyager, faut boire 36 coups en terrasse de café, il faut prendre les menus les plus chers au restaurant, parce qu'il faut relancer l'activité, quoi. Il faut des stades de croissance, mais ça rime à quoi ? Ça sert à quoi d'acheter des téléphones produits par des esclaves en Chine, exploitant de la matière première venue d'Afrique, grattée à la main nue par des enfants dans des mines ? C'est ça qui va permettre un développement humain cohérent ? L'auteur dit quoi ? Bah, arrêtez de vous gaver. Arrêtez de picoler, arrêtez de consommer, et on se pose et on réfléchit. Et est-ce que justement la réduction du temps de travail, travailler moins, d'abord pour travailler tous, aujourd'hui en France, on est à plus de 7 millions de personnes sans emploi. Très mauvaise répartition du temps de travail. à côté de ces 7 millions de sans-emplois, on voit une multitude de précaires qui travaillent à des mi-temps non choisis, voire à des temps partiels. Et à côté de ça, en fait, un groupe réduit de gens qui travaillent énormément. Si on prend la décennie 80-89 et qu'on la compare à la décennie 2010-2019, le volume de travail horaire a augmenté de 7,96%, passant de 38,5 milliards d'heures travaillées à 41,9 milliards d'heures travaillées, alors que la population active, elle, est passée de 24,7 à 29,4 millions. Si bien que la population active, elle augmente plus vite que le travail. L'accaparement du travail par un tout petit nombre et une masse de gens qui ne font rien ou qui travaillent peu parce que, en fait, ceux qui travaillent beaucoup confisquent le travail aux autres. C'est l'occasion d'un rappel historique sur la réduction du temps de travail et surtout sur l'intérêt de la réduction de travail dans le progrès humain. Ainsi, en 1831, on établit que la durée annuelle du travail en France était de 3041 heures annuelles. En 2019, 1505 heures. En l'espace de deux siècles, le temps de travail en France a été divisé par deux.
1831.
Un travailleur travaillait 3041 heures par an, plus de 10 heures de travail par jour, alors qu'aujourd'hui, effectivement, avec 1505 heures par année, on a un temps de travail qui a largement diminué autour de 5 à 6 heures de travail. Et encore, des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Norvège sont à des taux horaires annuels plus bas. À ce que je sache, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège ne sont pas des pays de crève-la-faim dans lesquels les gens, voyez, parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils ne produisent pas, errent dans les rues en haillons, cherchent des cailloux à sucer pour se nourrir. Alors, c'est quoi les grandes étapes de la réduction du temps de travail? En 1841, le travail des enfants est interdit en France en dessous de 8 ans et on observe une nette baisse du temps de travail jusqu'à 13 ans. Il faut attendre 1848 pour avoir la durée du temps de travail maximum de 12 heures par jour. En 1900, elle est réduite à 11 heures par jour. Et finalement, en 1919, on passe à 8 heures par jour. Si on prend la semaine de travail, en 1900, elle était de 70 heures. En 1936, elle est réduite à 40 heures. Il faut attendre 1981 pour passer à 39 heures de travail par semaine et les lois Aubry de 2000 pour passer aux 35 heures. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la levée de boucliers mise en place par la droite dénonçant le saccage de la France.
Qui continue encore aujourd'hui, hein, on continue à vitupérer les 35 heures. Hein.
Sauf que si vous interrogez les patrons, aujourd'hui ils sont très contents des 35 heures parce qu'ils introduisent énormément de souplesse dans la répartition de ces 35 heures dans l'année, avec des semaines où on peut travailler plus, des semaines où on peut travailler moins en fonction du carnet de commandes. Et donc les lois Aubry ont donné beaucoup de souplesse journalière, hebdomadaire, mensuelle, qui permet à l'entreprise de s'adapter à des réalités de marché. Et donc on voit là des positions totalement démagogiques de la part de la droite. Ils voient qu'il y a des moments où ça peut être utile, que les gens travaillent moins, ça peut être aussi des gens qui ont envie d'aller travailler. Quand on travaille moins, bah, tout compte fait, le travail, on peut y trouver un intérêt. Sauf que quand on vous assomme de travail 70 heures par semaine, quel est l'intérêt que vous pouvez y trouver? Tandis que vous travaillez moins, vous êtes content d'aller travailler. La réduction de temps de travail, c'est aussi les congés payés. Il faut attendre 1936 pour avoir les 15 jours de congés payés, hein, la réforme du Front Populaire. Et en 1982, on est passé à 5 semaines de congés payés. Donc, on est dans une phase de stagnation en termes de baisse du temps de travail depuis longtemps. À un moment où, un, la population active continue d'augmenter, et deux, surtout, les évolutions technologiques ont entraîné des gains de productivité absolument colossales. Si bien que c'est parfaitement logique qu'on se retrouve avec des taux de chômage extrêmement élevés. Au-delà des problèmes de formation et de conjoncture que l'on peut avoir, c'est mécanique. La productivité explose, le nombre de personnes sur le marché du travail augmente, et à côté de ça, vous ne réduisez pas le temps de travail. C'est mécanique qu'on se retrouve avec peu de gens qui travaillent beaucoup et qui râlent en disant « Ouais, moi je travaille », et puis il y a des feignasses qui touchent le chômage et des gens qui disent « Mais nous, on veut bosser, mais il n'y a pas de boulot ». La réduction du temps de travail, elle est fondamentale et nécessaire pour la société parce qu'il y a un aspect qualitatif à la réduction du temps de travail. D'abord, c'est une stimulation pour réorganiser les rythmes dans l'entreprise. pour repenser les rythmes de travail, la souplesse, effectivement, de travailler entre 32 à 39 heures par semaine en fonction des réalités. Ensuite, ça permet, la baisse du temps de travail, d'améliorer la productivité, de moderniser l'appareil de production. Le meilleur exemple, c'est l'esclavagisme ou la période coloniale. Quand vous avez une main-d'œuvre qui ne coûte rien, que vous faites bosser pendant X temps, comme aujourd'hui on a, le SMIC, un SMIC de misère, je ne parle même pas des pauvres gars qui pédalent sur leur vélo, tous les précaires et tous les ubérisés de la Terre, qui travaillent pour rien, très longtemps. Qu'est-ce que vous avez besoin de moderniser votre appareil de production ? Si bien que l'esclavagisme comme le colonialisme étaient des impasses économiques, parce qu'elles ne créent pas de véritables richesses, parce qu'elles restent dans des systèmes extraordinairement archaïques. Troisième élément, la réduction de travail permet d'améliorer le mieux-être au travail et ainsi d'augmenter la productivité. Pour le patron, il est gagnant, parce qu'il va réfléchir à comment réorganiser son entreprise, à se moderniser, à avoir des salariés qui viennent au travail heureux de venir travailler, parce que bah voilà, c'est bien d'être chez soi, c'est bien de prendre du temps avec sa famille, c'est bien de faire son jardin, c'est bien de cuisiner, etc. Mais c'est aussi bien d'aller au boulot pour aller voir les copains, etc. Puis pour réaliser quelque chose, le travail dans sa dimension émancipatrice, dans sa... Donc, voilà, je fais quelque chose qui est utile et j'en tire un revenu légitime. Là, on a quelque chose de positif. Donc, on voit les élucubrations de salaire universel, ce genre de choses. Moi, je sais pas, les positions sont très divisées à gauche là-dessus. Hein. Mais là, je pense que sur la question de la baisse du temps de travail, on a une véritable réflexion. Je comprends les gens qui vivent avec des petits salaires, etc., qui sont dans des conditions difficiles et que les revendications salariales sont totalement justifiées, notamment pour ceux qui sont en bas de l'échelle. Mais est-ce que le temps de travail devrait pas être quelque chose qui reparaisse en première ligne sur la pensée de gauche, avec cette dimension à la fois économique, écologique et sociale?
Les multinationales sont pas folles, hein, et beaucoup viennent s'installer en France parce que le travailleur français, contrairement à ce qu'on nous rabâche à longueur de France Intox, etc., ah oui, vous êtes des feignants, en grève, toujours en vacances. Le travailleur français est extrêmement productif. Pourquoi ? D'abord parce qu'il est formé, hein, il sait lire, écrire, il sait lire une notice, etc. Et puis il est plutôt content de bosser, bah, parce que quand il est malade, il a la sécu, donc il a la tranquillité de pouvoir être soigné à peu près, hein. Évidemment, ça se dégrade au fur et à mesure que le temps passe. Et puis le salarié français, il est plutôt bon travailleur aussi, parce qu'il sait qu'au bout d'un certain nombre d'années, a priori, il aura une retraite. Donc ça fait des gens, en fait, plutôt contents de bosser et plutôt compétents. Mais on nous rabâche à longueur de temps que nous sommes d'irréductibles latins, gaulois, fouteurs de merde et feignasses, ce qui est complètement faux. Le travailleur français est l'un des plus productifs au monde.
J'ai un cousin qui bossait pour une grande banque japonaise à la City à Londres, qui imposait des horaires de travail, mais qui allait jusqu'à 90 ou 100 heures par semaine. On devait être là, on devait être à notre poste de travail, c'est obligatoire. Mais il dit, mais on prend les rien. Parce qu'il dit, au bout de 10 à 12 heures devant un ordinateur, il dit, on fait n'importe quoi, on attend que ça se passe. Il dit, à un moment, on en a marre, et on se casse. Il dit, il y avait un turnover énorme, et ça fonctionnait pas. Et il dit, les gens les plus compétents, ils prenaient leur clic et leur claque, et donc il leur restait plus que les tâcherons, qui n'étaient pas très doués, mais bon, comme ils avaient un boulot dans une banque qui était bien payée, bon, bah, ils restaient là. Et il dit, on voyait le déclin organisationnel qui était lié à un trop grand présentiel au travail, qui ne rimait plus rien. Il y a une culture d'entreprise qui était complètement archaïque.
Philippe, oui. Si on fait le total des heures travaillées en France, et que l'on divise par la population active, tous les gens qui sont en âge de travailler, quand on fait la division de l'un par l'autre, on aboutit à des 30 heures ou des 28 heures de travail par semaine, pour peu qu'il n'y en a pas certains qui soient surbookés de travail, qui fassent des 70 ou 80 heures, et puis d'autres qui fassent du temps partiel non consenti, non voulu. Donc, de facto, si on fait la division de l'un par l'autre, on se rend compte que le pays, il fonctionne avec des gens qui, en théorie, travailleraient pas plus de 28 heures par semaine.
André.
Moi, je m'étonne que, dans l'interrogation, est-ce que ce système est faisable, applicable, vous n'ayez pas mis le régime social tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire le capitalisme. Bien sûr que le travail en France est très, très productif, mais il est très productif avec les règles imposées aujourd'hui par le capitalisme. Qu'est-ce qui est important dans une société capitaliste ? C'est le coût du travail. Plus il est bas, plus plus le profit est élevé, c'est assez clair. Bon, pour l'instant, évidemment, dans l'ensemble, dans une entreprise, le patron a intérêt à salaire égal à ce que la personne travaille plus, pas à ce qu'elle travaille moins. Même si on peut souligner l'ambiguïté, l'équivoque, l'insuffisance, la réflexion de la droite française, etc. Enfin, ils ont quand même compris que pour la plupart des entreprises, d'autant qu'il y a une différence entre grandes et petites entreprises. Parce que c'est vrai que les lois Aubry ont été détournées. D'ailleurs, avec la passivité de Aubry, elle a laissé le patronat récupérer la diminution du temps de travail pour la répartir sur l'année, etc., y compris dimanches et fêtes, etc., qui ont été supprimés. T'as une annualisation de la capacité de travail, et ce qui a quand même diminué le coût pour le patronat de cette diminution horaire. Il faudrait quand même poser la question économique principale, c'est-à-dire quel salarié ? Salarié du secteur public, de l'État, ou salarié du privé ? Salarié du privé, il y a des entreprises qui en France s'installent ou se maintiennent en France parce que le coût du travail y est très peu élevé. La productivité est bonne et le coût du travail, c'est-à-dire les salaires distribués, sont bas. Donc c'est intéressant, j'entendais tout dernièrement un type du gouvernement dire « Ah, c'est bien, les entreprises étrangères sont très attirées par la France. » Pourquoi sont-elles attirées par la France ? Parce que le coût du travail y est bas. Si vous diminuez l'horaire hebdomadaire du travail, et c'est tout à fait faisable, hein. Vous pouvez imaginer une société, une économie où on travaille 5 heures par jour, le travail sera fait, etc. Et en plus, on peut imaginer aussi que ça peut atteindre le chômage. Précisément, est-ce que le chômage va diminuer ? Est-ce qu'ils vont embaucher ? Rien n'oblige une société à embaucher. Si elle estime que le coût du travail est trop élevé à 26 heures par semaine, ben elle se taille, elle va ailleurs. Bon, est-ce que c'est plus intéressant de s'installer au Vietnam, en Tunisie, en Bangladesh, etc., en fonction du coût du travail ? Certes, la main-d'œuvre du Bangladesh, etc., ou de la Tunisie, moins qualifiée, moins adaptable, moins technique, quoi, en quelque sorte. C'est moins bon, il faut utiliser plus de gens. Mais les salaires sont tellement faibles que c'est intéressant de s'installer à l'étranger. On a vu quand même que depuis 20-30 ans, les délocalisations sont massives. Pourquoi Michelin continuerait-il à faire des pneus en France alors qu'il est beaucoup plus intéressant de les faire au Brésil, par exemple, ou au Canada ? Parce que le coût du travail est inférieur. Et je pense pas que dans ces pays-là, on soit 26 heures par semaine. Donc, si vous voulez, le problème, ce sera de contrôler les entreprises. Et pour ça, il faut pouvoir un peu avoir la main sur le capital, la propriété ou le pouvoir économique, en quelque sorte. Il faut quand même poser cette question-là. Sinon, bien sûr, on peut développer toutes les idées généreuses et tout à fait applicables, réalistes, à condition d'avoir la main sur l'économie. Et donc, se pose de toute façon inévitablement le problème de la socialisation des moyens de production.
Ce que tu as mis en avant, c'est la vision à très court terme, en fait, des capitalistes. C'est-à-dire, c'est rentabiliser à fond l'investissement du capital et se gaver comme des porcs le plus vite possible, faire du cash flow, sans qu'il n'y ait aucune visibilité, aucune vision à moyen ou long terme sur qu'est-ce que doit être la société, qu'est-ce que doit être notre planète, etc. Et là, on dégage du cash flow en allant dans la mondialisation la plus crasse qui fracture les sociétés, exploite les populations, crée de la pollution, augmente les transports qui sont la première cause de pollution dans le monde. Il y a effectivement, comme tu le dis, un choix fondamental de société et que la vraie transition écologique passe fondamentalement par une remise en cause des rapports de production. Et donc, une remise en cause du capitalisme. C'est mécanique, quoi. C'est pas avec 3 colibris qu'on va s'en tirer, quoi. Même si c'est bien de faire son jardin. Mais ça suffira pas.
Daniel.
Oui, une remise en cause du capitalisme, c'est-à-dire c'est qui a le pouvoir ? Est-ce que ce sont les grands intérêts économiques, financiers, technologiques, industriels, etc., commerciaux ? Ou est-ce que ce sont des pouvoirs publics, des pouvoirs politiques, qui se sont, dans le meilleur des cas, l'émanation de la collectivité des citoyens ? Le principe du libéralisme, c'est que les intérêts économiques ont le pouvoir et ils l'utilisent dans le sens de leurs intérêts. Ou alors, il y a une autre vision du monde, c'est on peut supporter des milliardaires et des grands intérêts économiques à condition qu'ils soient domestiqués, en quelque sorte, par les pouvoirs publics, par les pouvoirs politiques. Il y a absence de perspective parce que les États ne sont plus des États économiquement stratèges. Mais c'est ça, la remise en cause du capitalisme. Qui a le pouvoir ?
Article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Les inégalités sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et donc, quand ça devient parasitaire, eh bien, il faut faire comme pendant la Révolution, couper quelques têtes.
Cédric.
Oui, c'est un peu vague. Même Adam Smith aurait pu accepter cet article, c'est-à-dire l'utilité commune. On peut considérer qu'un capitaliste se préoccupe de l'intérêt commun tout en faisant son bénéfice. J'ajouterais une chose quand même, c'est pas seulement une question de pouvoir, ou du moins le pouvoir est la conséquence de la propriété. C'est la propriété qui donne le pouvoir. Alors bien sûr, on peut rendre compatible un certain capitalisme, c'est le cas en Chine par exemple, avec un pouvoir d'État extrêmement fort qui effectivement est un pouvoir stratège et dirige l'économie. C'est d'ailleurs ce que les Occidentaux reprochent à la Chine, c'est qu'en Chine, c'est l'État qui fait les choix économiques, c'est pas les capitalistes. Les capitalistes existent, font leur bénéf sur le travail des ouvriers, donc c'est pas très très communiste ça, c'est même un peu capitaliste sur les bords. Mais en revanche, les choix sont faits par l'État chinois, c'est ce qui lui donne sa force d'ailleurs. Laisse pas les capitalistes jouer contre l'ensemble de la nation chinoise. C'est un petit peu la même chose avec Poutine. Poutine, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à Yeltsin ? Il a dit, halte là, on dépèse pas le pays, on le découpe pas en morceaux, pour faire des grosses sociétés qui vont ensuite après s'acoquiner avec les forbans occidentaux. Non, non, non. On peut avoir un capitalisme en Russie, mais ce capitalisme ne doit pas travailler contre la Russie. Il doit être sous contrôle. C'est ce qu'on reproche à Poutine. C'est pas d'être vilain, pas beau, méchant, etc. C'est de contrôler son capitalisme en quelque sorte et de ne pas autoriser le capitalisme international de se comporter en prédateur sur le territoire russe. En gros, c'est ça.
Bon. Et en Chine, ils rigolent pas avec les patrons. Il y a plusieurs patrons, Alibaba, qui ont disparu de la circulation pendant plusieurs mois. Alors, on ne sait pas ce qui leur est arrivé, mais quand ils sont revenus, ils sont devenus beaucoup plus calmes. Parce qu'ils avaient eu manifesté quelques libertés, etc. Et ils les ont remis en ligne. Alors, je ne sais pas quels moyens plus ou moins sordides ils ont utilisés, mais c'est assez radical.
C'est ça, il s'agit de savoir qui met au pas qui. Dans le monde occidental dit démocratique, ce sont les capitalistes qui mettent les États au pas. On peut imaginer que ça soit l'inverse. Tu donnes l'exemple de la Chine, c'est clairement l'État, contrôlé par le Parti communiste, qui met, si c'est nécessaire, les capitalistes au pas. C'est ce qu'on appelle une dictature.
C'est de l'ironie, c'est de l'ironie évidemment. Oui, c'est par exemple l'attitude à l'égard des services publics. Dans ces pays-là, en Chine en particulier, il y a des services publics et c'est l'État qui contrôle les transports, l'énergie, les grosses industries essentielles à l'activité du pays sont contrôlées par l'État. C'est une grande part, en quelque sorte, du capital est possédée par l'État chinois et donc par le peuple chinois, en admettant que l'État soit entièrement représentatif du peuple chinois. Mais quand même, c'est l'État chinois. Oui, on peut penser, par exemple, que ces sociétés, ces grosses sociétés capitalistes chinoises, elles payent leurs impôts en Chine, contrairement à nos grosses sociétés capitalistes qui ne payent pas d'impôts du tout. Mais en France, comme aux États-Unis, c'est le grand capital qui a le pouvoir, tous les pouvoirs, et il a simplement ses larbins qui sont au pouvoir, là, pour faire appliquer la loi. C'est pour ça que je pense difficile de faire une réforme du travail en maintenant au pouvoir des commis du grand capital et le diktat du grand capitalisme. Ça me paraît difficile.
Mais attends, André, pour les États-Unis, tu vas voir, depuis que le camarade Joe Bidenovich a été élu, ils vont découvrir plein de choses. Voilà les amis, c'est ici la fin de cette spéciale Monde Diplomatique que vous pouvez réécouter sur notre site polemixetlavoixoff.com avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut,
terminé. Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. www.radio-g.fr. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr. activez vos synapses.